je vous remercie de partager ces différentes expériences. À présent, on va ouvrir les questions à la salle. Donc, au fur et à mesure, je vous en prie.
Oui, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quelques questions. Mais avant ça, je pense que c'est le meilleur colloque auquel j'ai assisté. Merci à Juliette et à Mohamed d'avoir pensé comme ça. Et bon, moi, c'est pas très intéressant. Bon.
Posez votre question, on a gagné du temps.
Oui, je pose juste les questions. Ma première question, c'est pour Bakary Sarro. J'ai vu des gens comme vous, peut-être, qui étaient dans une radicalité comme ça, et du jour au lendemain, ils ont changé. Je peux penser à Kémi Sabah, qui a fait une évolution un peu particulière, mais il revient un peu sur certaines choses. Du coup, vous, comment s'est passé votre passage, en fait, de ce militantisme radical? Et, parce que quand je vois aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes plus apaisé, en fait, que dans le passé. Et pour Nasruddin Haïdari, ma question c'est sur la déconstruction même sur la construction dans la littérature dite arabo-islamique du noir. Parce que je pense qu'avant l'esclavagisme, l'homme noir dans la littérature dite arabo-islamique est très mal construit. Là, hier j'ai cité Ibn Khaldoun, mais je peux citer Ibn Khotaïba qui disait que si les noirs sont noirs, c'est parce qu'ils sont restés plus longtemps dans le ventre de leur mère. Ce sont des délires incroyables qu'on retrouve dans il est un génie pour certains musulmans qui s'intéressent à la littérature. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail de construction même de cette littérature qu'il faudra opérer avant de penser à l'esclavage? Je vais finir par Madame Ralia Aboudou. L'une de vos filles est une de mes meilleures amies, Malisa, que je connais très bien, et elle m'a raconté beaucoup de choses. On a écrit un livre ensemble, on a fait un voyage aux États-Unis ensemble, et je sais qu'elle en a assez. Mais et je viens de comprendre pourquoi elle a ce courage, elle a cette audace. Je pense qu'elle l'a pris de vous, et je voulais vraiment vous féliciter d'avoir une fille comme elle. Et Hawa, est-ce que tu pourrais nous slammer à la fin? Parce qu'elle a vraiment...
Oui, évidemment. Évidemment, mais ça c'est prévu pour la fin.
Ah ouais, à la fin. Merci.
On va prendre une série de questions, s'il vous plaît, comme ça. Oui, je vous en prie.
Aller dans la même foulée que Yamine et remercier vraiment les organisateurs, quoi. Parce qu'effectivement, c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Moi, depuis hier, en fait, je plane. Parce que vraiment, c'est de pouvoir vivre ce genre de moment où on peut mettre des mots sur ces blessures, sur cette mémoire et accepter naturellement d'affronter cette réalité pour la dépasser, je trouve ça extraordinaire et ça devrait vraiment se multiplier. Donc,
quelle est la question?
Et la question, c'est pas une question, c'est un commentaire, ça rejoint notamment les deux témoignages de Bakary et Nasruddin, et qu'a conclu brillamment Kadura. Je reviendrai là-dessus cet après-midi, mais la question de l'esclavage reste un point. Ça reste un point à déconstruire. Voilà, il a été
merci.
Le mot, c'est vraiment le terme. Je voulais juste faire ce témoignage-là. Voilà, merci beaucoup.
Oui,
merci.
Et après cette table.
Oui, mais le constat que je suis là-dedans, c'est très intéressant, très riche aussi. Je vais me concentrer sur un intervenant. Difficilement poser des questions à tout le monde. J'avais donc trois questions rapides autour du témoignage de Nasruddin. Pardon, je n'ai pas noté votre nom.
Edari.
Question à Nasruddin Edari. Donc, son témoignage, donc vous avez indiqué que pour vous, l'identité comorienne, elle était fondamentalement arabe et socialement africaine. Ça m'a fait penser à une manière dont tous les Mauritaniens, un certain nombre de Mauritaniens que j'ai rencontrés, définissent leur propre identité. Je pense notamment à un imam en particulier qui a un peu excipé de cette connaissance de la culture africaine selon lui et de la connaissance de la langue arabe pour obtenir une place, une position de choix au sein de la communauté locale dans laquelle il est inséré. Il n'y a pas que ça, il est aussi docteur en sciences politiques. Mais enfin, le fait de dire, voilà, moi, je comprends, c'est comme ça qu'il m'a présenté les Arabes, et je comprends les Africains, ça lui permet d'avoir une certaine forme de légitimité. Et je me demandais s'il y avait des connexions, tout simplement, entre les communautés comoriennes et les Mauritaniens, ou les Franco-Mauritaniens, sur cette base-là. La deuxième.
Très court.
La deuxième question, bon, alors beaucoup plus court. Et vous avez justement défini une partie de votre identité qui s'articule autour de ces deux axes. Moi, quand je vous écoute, votre prosodie et votre accent, j'en vois très nettement une troisième, l'identité provençale. Et celle-là, vous ne l'avez pas forcément évoquée. Je voudrais dire quelle est finalement la part, enfin, voilà, être musulman, c'est peut-être être différent que d'être musulman coréen en Île-de-France. Il y a peut-être un ciment particulier qui est mis en avant par beaucoup de Marseillais. J'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à ça. On a beaucoup dit, par exemple, à partir de 2015, que vous étiez surpris de voir la radicalisation de certaines communautés au sein de petites villes familionnaires, et quasiment pas de radicalisation à Marseille. Vous évoquez d'ailleurs dans votre titre biographique la question de la radicalisation, vous ne l'avez pas évoqué ici. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que ça tient, ce ciment, finalement? Il y a une identité marseillaise, peut-être au-delà de ces identités que vous avez évoquées, transversales, véhiculaires, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Troisième question, comment expliquez-vous, vous avez quand même...
Brièvement.
Les Comoriens étaient les mieux structurés sur le plan religieux. Alors comment vous expliquez ce déficit de visibilité des Comoriens, des Franco-Comoriens, au sein des instances représentatives de l'histoire de France?
C'est plus le problème.
Au plan religieux, tout semble être là. Ouais. Au sein de la FAYACA, au sein des CRCM.
Vous pourrez intervenir justement à ce sujet, puisque c'est la question. Oui, merci.
Merci, enfin, vraiment, moi aussi, je trouve que c'est extraordinairement intéressant. Je vais tout comprendre mieux où se rend Sissoko sur cette question de la racialisation qui travaille les frères Moussam. Une question qui complète aussi sur la. Parce qu'on est un peu hors sol par rapport aux politiques en France. Et dans tout ce que. Mais j'étais pas là hier, malheureusement. Peut-être c'était. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, des surdéterminations, comme on dit, au niveau des financements des imams, des mosquées. Alors, on a vu des exemples très concrets, très parlants sur comment ça se passe à quel endroit. Là, il n'y a que la première pierre, là, voilà. Mais est-ce que cette racialisation, cette ré-ethnicisation en immigration, en fait, hein, des questions à partir de la religion, est-ce que ce n'est pas aussi fonction de qui et de comment nos politiques en France aussi se saisissent quand ils ont une vie, des questions pour les instrumentaliser?
Cette question s'adresse à...
Donc c'était un peu à tout le monde.
D'accord. Brièvement. Oui, et puis après il y avait aussi... Oui.
Merci beaucoup à tous. C'est vraiment un régalier à vous écouter. Alors c'est vrai que ça part d'histoire peut-être un petit peu triste, d'histoire de rupture de transmission, dans la chaîne de transmission, et surtout des ruptures qui se passent sur plusieurs générations. Et pourtant, quand on vous entend, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de ressources. Alors évidemment... un peu titiller la chose en disant est-ce qu'à un moment donné aussi toutes ces formes de rupture, de violence hein, qui sont faites aussi qu'on rencontre au quotidien dans ces générations qui se suivent et qui autant à l'intérieur de l'islam autant à l'intérieur de la société française etc. Est-ce que ces discriminations elles sont pas aussi les moteurs de créativité, les grosses ressources aussi hein. Alors c'est vrai qu'on y a deux Marseillais à table donc, ouais, je vais faire la troisième dans la salle, mais c'est vrai qu'on a ce côté aussi où on vit peut-être pas de la même manière effectivement qu'à Paris aussi, et j'ai l'impression à vous écouter madame aussi que finalement vous êtes très fière de vos filles aussi de leur parcours hein, et que la discrimination elle est toujours là, mais alors vous parlez de gens qui veulent repartir. Dans d'autres parcours comme Kajura, il y en a qui sont repartis, qui sont revenus aussi. Alors, bon, voilà, toujours pour vous dire est-ce que là-dedans il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de violence, et il y a aussi beaucoup de ressources, et c'est un peu ce que vous expliquez. Et j'aimerais donner un peu le temps de cette ressource.
Merci. Il y a une autre question derrière, après vous. Oui.
Oui. Merci pour les interventions. J'ai une question pour Madame Longo. Moi je disais que si j'avais été une femme, j'aurais brûlé les mosquées. dans une de mes conférences, parce qu'effectivement, je ne comprends même pas comment on peut, en tant que femme, prier dans les mosquées. Je trouve que c'est très endurante et très persévérante. Donc la question, c'est de savoir quels sont les moyens que vous mobilisez pour soit créer des lieux ou participer à la création de lieux qui laissent pleinement la place aux femmes. Et est-ce que les mosquées sont les lieux, justement, de construction de ce genre d'émancipation? Est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs? Ça, c'est la question que je me pose après les expériences que j'ai moi-même eues dans différentes mosquées. On se retrouve avec des fidèles, on arrive à mobiliser le Coran et la Sunna en disant, en fait, votre discrimination du peuple n'est pas coranique. À la fin, la salle finit par être d'accord. Et demain, ils disent, ouais, mais il faut qu'elles aillent dans le sous-sol. Donc, on se dit, il n'y a pas de solution, en fait. Donc, c'est une question que je me pose. Et quant à la question du racisme, moi, j'ai fait une vidéo, c'est juste un extrait. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, ah, t'as fait une vidéo de racisme maghrébin. Et quand je discute avec nos amis maghrébins, même sur Radio France Maghreb, je vois la cécité.
Votre question, pardon, parce que.
Et juste pour savoir, est-ce que pour mieux établir un rapport de force, ne faut-il pas créer une organisation à part, islamique, dédiée aux Noirs? Et sur le plan politique, ne pensez-vous pas, dans votre expérience politique, je vous connais tous les deux, quelle est l'articulation de l'islam en tant que moyen de mobilisation et d'organisation pour proposer un projet de société et participer politiquement à la gestion de la cité? Comment est-ce que vous articulez cela? Ou au nom de la laïcité, vous mettez ça dans votre poche?
Merci. Il y avait encore une question ici et une toute petite question et après on arrête parce que sinon on va oublier les premières questions.
Donc. Voilà. Bon, en fait, ma question s'adresse à Baraki. En fait, souvent on constate que les jeunes sénégalais qui sont nés ici sont souvent envoyés au Sénégal par exemple pour apprendre le Coran. Mais pas uniquement pour cela. Est-ce que c'était pas votre cas? Est-ce que c'était pas un voyage d'intégration culturelle, voilà, pour ne pas se perdre? Est-ce que c'était pas cela?
D'accord. Et dernier petit point qui vous.
Oui, moi c'est très concret.
Et après,
oui. Vous avez dit que vous aviez voyagé et vu en fait des fonctionnements différents en termes de place des femmes dans les mosquées. Est-ce qu'il existe en France, ce milieu, je ne sais pas en fait de mon côté, il existe en France des expériences du salle de prière de mosquée qui accorde une autre place aux femmes, est-ce que ça existe?
Et dernière question du coup, effectivement, parce que.
Par rapport à ce conseil.
Pour la deuxième salve.
Ouais. Ce dont on a parlé hier, qui était peut-être assimilable à l'islam en France, on a parlé de l'islam un peu importé avec certaines communautés. Et donc aujourd'hui, on parle de rupture, on parle d'expérience personnelle, mais avec beaucoup de rupture. Quoi. Donc, pour parler peut-être d'islam de France. Quoi. Donc, avec par rupture de transmission, est-ce que quel est le regard que vous portez par rapport à vos parents ou par rapport aux instances représentatives, les membres sont quand même d'une génération autre. Voilà.
Merci de vos questions. Qui veut commencer à prendre la parole?
Oui.
Madame.
Et moi.
Après, la deuxième. D'abord les réponses et après bien sûr on reprendra. Je vous en prie. Non, ne vous oubliez pas.
Moi je veux faire juste une petite intervention sur la FAICA parce que comme il y a le président de la FAICA ici sur place, je pense qu'il en parlera de long en large. Mais moi c'est surtout par rapport aux jeunesses de la FAICA PACA parce que effectivement ça a été. J'étais à la source, moi et M. Moussa Kouaïté, de cette création. À partir de quoi? À partir de notre présence dans les 30 personnalités de la grande mosquée de Marseille avec sa pierre. Donc, je faisais partie de ces 30-là et c'est comme ça que j'ai connu Moussa Kouaïté. Et à partir de là, lui connaissait la FAICA Et nous, on se disait qu'il fallait une représentation de la communauté noire musulmane à Marseille, parce qu'on était suffisamment nombreux. Je pense que les Comoriens étaient au même niveau que les Maghrébins en termes de population, et les Sénégalais, effectivement, ils étaient moins. Donc, ils n'arrivaient pas à créer quelque chose d'assez poignant. Et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour utiliser l'effigie de la FAICA nationale au niveau de Marseille et essayer d'intégrer la communauté comorienne dans un processus d'approche d'ensemble entre intercommunauté. Et on a réussi effectivement à relever ce défi. On a créé non seulement la FAICA PACA, mais on a réussi même à obtenir, ce qui était vraiment un combat, une mosquée. Avec la mairie de Marseille, on a obtenu une mosquée qui se trouve à la gare Saint-Charles, bien placée, bien en plein centre-ville. Et malheureusement, c'est pour parler quand on parle de Maghrébins et d'Africains, mais même entre Africains aussi, parce que moi j'estime que les Comoriens sont des Africains, donc entre Africains aussi, il y a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, la mosquée reste... pour les Comoriens, une mosquée sénégalaise, pas une mosquée d'ensemble de tout le monde, mais c'est sénégalais et eux revendiquent toujours d'avoir une mosquée comorienne parce que celui de la rue de Guichard est trop petit, assez vieux et délabré. Donc c'est toujours une autre problématique qui se pose par rapport aux Comoriens et à cette possibilité-là. Et juste pour ajouter par rapport aux salles de prière femmes, parce que bon, cette problématique femme m'intéresse beaucoup, et c'est que effectivement à l'étranger, moi j'ai eu à voir des reportages ou même à assister dans certains pays où les femmes sont à l'étage, pas à la cave, sont à l'étage et ont une visibilité sur l'imam qui est donc dans les minbars, etc. Ça c'est à l'étranger, mais j'ai vu aussi au Comores. Les femmes font leur propre mosquée, ils ont leur propre mosquée et ils vont dans leur mosquée. Voilà, et c'est si simple que ça. Il n'y a personne qui leur interdit d'avoir leur mosquée, donc ils les ont. Voilà cette approche de l'islam à la comorienne où les femmes ont cette possibilité-là. Un dernier point que moi-même je donne en forme d'interrogation, c'est la mixité. Les mariages mixtes ne sont pas uniquement problématiques maghrébin-afrique noire, mais même afrique noire-afrique noire. Afrique noire-afrique noire, c'est surtout, parce que je le vis avec une de mes filles, catholique et musulmane. Ah, vraiment, c'est le choc des titans. Et donc voilà, ça existe aussi. Donc on a toute cette approche, le fait qu'on vit ensemble maintenant. On est obligé de construire, de déconstruire certaines approches pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement dû aux Maghrébins, même si nous, dans ma génération, mon ex-mari a fait ses études en Algérie, moi-même je suis passée par le Maroc, et on n'a pas vécu les tensions qui sont actuellement entre Noirs et Maghrébins en Algérie ou en Tunisie, au Maroc, en Libye, au sud de la Mauritanie. Il y a des événements qui n'y étaient pas dans les années 80 et qui aujourd'hui se sont ressortis. Donc il y a tout un travail à effectuer là-dessus.
Merci. Sinon je... La Jourdine, à vous de répondre.
Oui, peut-être sur. Premièrement, sur la proximité entre la Mauritanie et les Comores. Il y a des relations entre les Comoriens et les Mauritaniens, mais plus entre les Mauritaniens et les Soudanais. Je pense que la proximité, elle est plus parlante. Il faut avoir aussi en tête que les Comores font partie de la Ligue arabe. Il y a les deux pays noirs qui font partie de la Ligue arabe, il y a le Soudan et il y a les Comores. Pour l'identité marseillaise, c'est vrai que Marseille n'est pas Paris, Paris c'est pas Marseille, mais il y a vraiment une identification. Marseille est une ville inclusive. Alors maintenant, plus comme avant, Parce que la ghettoisation, notamment dans les quartiers nord, petit à petit déconstruit cette identité marseillaise. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait des Corses, où il y avait des Italiens, où il y avait des Tunisiens, où il y avait des Algériens, où il y avait des Marocains. Il y avait un petit Marseille. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, à Calisté, vous avez un quartier où il y a 98% de Comoriens. C'est-à-dire que le petit, quand il grandit, il va faire toute sa jeunesse avec des Comoriens. Et c'est-à-dire qu'il y a même un livre qui est sorti où en classe, il parle comorien, comme ça le prof il comprend pas. Donc, c'est pas normal. C'est-à-dire que cette identité marseillaise, qui est une identité forte, elle construit quelque chose. Hein. Moi, je suis passé par l'identité marseillaise pour me marier avec ma femme. Parce que vous savez, nous, on est des insulaires. Il n'y a pas de frontières. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en crée à l'intérieur. Ça nous facilite la vie. Et donc, ma femme, elle n'est pas de mon village. Donc, il a fallu ramer. Et à la fin, j'ai dit, mais maman, le seul village qu'on ait, là, c'est Marseille. Donc, je pense qu'elle a compris. Je me marie déjà avec une Comorienne. Voilà, je suis tranquille, je suis dans les normes. Voilà. Maintenant, le village, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on se rabat sur le petit village qui est un peu plus grand, qui est Marseille. Et après, il y a le poids démographique. On est dans une ville où il y a 800 000 habitants et où il y a à peu près 110 000 Comoriens. Donc, c'est un poids conséquent. Et donc, la communauté comorienne, en fait, elle fait sans les autres communautés. Elle peut se permettre de faire sans les autres communautés. Et pour la présence dans les institutions, on a un rapport qui est pas le même, en fait. Les Comoriens, ils ont un rapport au religieux qui n'est pas un rapport de pouvoir, en fait. C'est pas un rapport de pouvoir. C'est un rapport d'éducation. C'est-à-dire que nous, on doit transmettre la religion, parce que si je meurs, il faut que mon fils sache m'enterrer. Ça, c'est une préoccupation, une obsession, c'est le Comorien. Moi, j'ai deux petits garçons, mon obsession, c'est leur donner le savoir pour si je meurs, ils puissent m'enterrer. Et il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes comme j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les mosquées qui sont à Marseille ont un Comorien qui a initié la mosquée. Mais après, on est parti du pouvoir. Ce qu'on veut, c'est faire nos prières, c'est éduquer nos enfants, et après, basta. Et donc, quand le CRCM est venu et a commencé à dire qu'on va compter les mètres carrés pour voir votre islamité ou pas, on était absent du jeu, parce que c'était pas notre jeu à nous. Et nous, on construit la préoccupation, et je pense aussi c'est une préoccupation des Africains subsahariens, hein, de construire le musulman, et après le reste, ça appartient à Dieu. Voilà.
Merci. Kadjoura, si vous voulez intervenir dans votre expérience, au regard des questions.
Alors pour répondre à la question de Djibi, oui. Effectivement, je suis parti au Mali pour des raisons culturelles, mais également pour apprendre l'islam, véritablement, parce que j'étais dans un institut et j'y restais toute l'année, en fait. Donc, ce n'est pas que pour des raisons culturelles, mais c'est véritablement essentiellement pour des questions liées à l'islam. Je vais répondre à des questions qui ne m'ont pas été posées, mais il faut que j'y réponde. Essentiellement, celle d'Ousmane et de son voisin. Je vais commencer par son voisin qui m'a demandé nos regards sur les instances, si je ne me trompe pas, c'est ça. En tout cas, je parle pour ma génération. À mon sens, déjà, on ne se sent pas représenté par ces personnalités-là. Et deux, on ne sent pas également qu'on a la place, en fait, en réalité, pour jouer un rôle dans ces instances-là, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils veulent répondre véritablement à nos besoins. D'où pourquoi, en réalité, on ne s'attache même pas à ces instances-là. Et ce qu'on veut, en réalité, c'est créer des structures parallèles. Et par exemple, aujourd'hui, on le voit avec la plateforme qui a été mise en place par Marwan Mohamed, qui veut véritablement créer autre chose en réalité. Et dans les mosquées, le problème étant, c'est que les anciens ont du mal à lâcher, ils appellent ça leur bébé, la mosquée, parce qu'ils ont tout fait pour créer une mosquée, et je l'entends, et ils ne veulent pas la donner à n'importe qui, ce qui fait que la jeunesse également a du mal à s'implanter et prendre les rênes des mosquées, mais c'est également aussi par le fait que, en tout cas je parle pour ma génération qui est assez immature et qui ne pense pas trop à ces questions, Et lorsqu'on arrive dans une mosquée, les anciens, ce qu'ils veulent, c'est que d'abord on aille au parking, on nettoie les toilettes avant de penser à vouloir commencer à signer les papiers. Et la génération d'aujourd'hui ne veut pas ça, ils veulent directement commencer à signer les papiers. Et pour rebondir sur la question d'Ousmane qui posait la question pourquoi ne pas créer une autre organisation, je suis contre. Parce qu'à mon sens, en fait, ça serait reproduire ce qui se fait déjà. Parce que déjà, aujourd'hui, au niveau de l'islam, ce qui se passe au niveau du CFCM, etc., on a du mal à s'organiser. C'est une grande cacophonie. Pourquoi ? Parce que toujours Algériens, Marocains, on le voit avec ce que Bakary a décrit en réalité. Donc, à mon sens, le fait que nous, Africains, disons, oui, il faut qu'on recrée une structure, on va faire les mêmes bêtises. Et hier, tu disais, on est des moutons. Ok, bah on va refaire la même bêtise en réalité. Et à mon sens, en réalité, on doit
suivre,
mais tu sous-entendais.
L'image était forte.
Et du coup, à mon sens, en fait, ce qui devrait être fait, c'est, je parlais du fait que les générations d'aujourd'hui créent leur propre organisation, et ces organisations-là, dans leur construction, sont plurielles. On y voit, de tout. On ne fait pas attention, encore une fois, à l'ethnicité. Ce qui prime, c'est la compétence. Et du coup, pour moi, le fait de mettre ces organisations-là en avant, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir dépasser le fait, t'es arabe ou pas arabe, etc. Voilà.
Ouais. Bon, pour répondre à Ousmane sur la structuration, nous les Comoriens, on a une structure qui est indépendante. Hein. On a un moufti, on agit en vase clos. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience comorienne, c'est vrai que l'islam est universel, mais on ne parle pas à un soninké comme on parle à un Comorien. C'est pas possible. Et on ne parle pas à un Algérien comme on parle à un Marocain. On a des islams qui sont divers et qui sont multiples, quand on m'amène des fois pour régler des problèmes dans des familles algériennes, mais j'y comprends rien. Je suis là, je mets d'abord un temps d'adaptation, d'essayer de comprendre comment ça se passe, mais quand j'y vais dans une famille comorienne, ça y est, le film gelé. Avant même que la petite, elle me dit « Ouais, mais il m'est arrivé ça », ça y est, je sais. Et je pense que on ne doit pas, au nom de l'universalité de l'islam, effacer nos spécificités. C'est une richesse qu'on a. C'est une richesse. Et moi, je veux et je trouve que l'intérêt d'un collègue comme celui-ci, c'est de découvrir que la réalité des Soninké, c'est pas la réalité des Bambara. Moi, j'y connaissais rien, moi. Et c'est vrai que découvrir ça, c'est une richesse. Et je pense que supra-organisation, peut-être pas, mais essayer de construire par rapport à une spécificité culturelle, quelque chose qui nous parle et qui nous ressemble, pour moi, c'est une obligation.
Mm-hmm. Mais précisé
mais est-ce que l'islam ne nous invite pas à dépasser cela, en fait ?
Bah ouais.
Bah voilà. Donc, en fait, l'islam...
Dépasser ne veut pas dire effacer.
J'ai pas dit effacer, mais en fait, à trop se focaliser là-dessus, en fait, on ne dépassera jamais en réalité. On le voit aujourd'hui, ça fait plusieurs années.
Bakary. Les questions qui vous ont été posées, si vous vous souvenez de la première.
Sur la politique aussi.
Les premières questions.
Je vous ai demandé à prendre la parole avant l'imam, mais il y a du boycott ici.
Il faut me freiner, moi.
Mais j'avais demandé quand même la prise de parole avant toi.
Mais je ne t'appellerai pas Carlouche parce que je sais que c'est compliqué pour moi.
J'ai moins de force. Et en plus, je suis plus apaisé.
Et justement, voilà, pour l'apaisement.
Et juste, je voulais, parce que je trouvais important sur la question des Comoriens qui construisent des mosquées, non pas pour le rapport du pouvoir, mais par souci d'héritage culturel, de transmission de valeurs. La question politique, moi je suis tout à fait pour que politiquement, qu'il y ait une organisation qui permette, non pas de sortir de l'islam, j'ai dit tout à l'heure, et d'avoir un islam pour les Noirs, c'est pas du tout ça la question, mais une structure de référence qui permet à tout individu, jeune, africain, comorien, voulant aller chercher d'autres sources, des informations, se cultiver différemment, puisse déjà aller vers cette bibliothèque qui sera une première étape de ressources. Et c'est la raison pour laquelle, à l'introduction, vous m'avez présenté en disant fondateur d'une maison d'édition. C'est pas pour le business. Je suis entrepreneur, c'est vrai, mais c'est pas pour le business que je l'ai fait. J'ai écrit mon premier ouvrage pour deux raisons. La première, de dire, alors, depuis le colloque, sociologue, docteur, anthropologue. Bon, moi, je suis titulaire d'un BEP. Et en bac, je me suis auto-viré de l'école sur la question de Shoah, pas Shoah, esclavage, pas esclavage. Vous savez comment c'est déjà il y a très longtemps, donc j'étais obligé de m'auto-sanctionner et de quitter l'école. Mais j'ai écrit l'ouvrage pour dire, nous devons écrire et poser des faits. J'allais dans différentes conférences à cette époque-là, et à chaque fois, il y avait donc toujours les docteurs et les sociologues, mais surtout, ils avaient des ouvrages. Auteurs de tel livre, de référence, ou à théoriser telle ou telle chose. Je me suis dit, il faut que je le fasse, parce que dans nos quartiers, nos histoires ne peuvent pas être racontées par des gens de l'extérieur. Je suis le spécialiste du 19e. C'est pas la peine de parler chinois avec moi. Le 19e, c'est moi qui connais. Il y a peut-être deux ou trois autres spécialistes, mais ils sont aussi du 19e. Ils ne sont pas de l'extérieur. Donc c'est pas un sociologue qui va venir poser trois ou quatre questions et qui va devenir le spécialiste du 19e et des quartiers populaires. Non, c'est moi le spécialiste, c'est moi qui vis dedans et c'est moi qui connais les réalités à l'intérieur. La deuxième raison, c'était la transmission. J'avais besoin, j'ai un fils de 12 ans et un autre petit de 7 ans, et j'avais besoin que mon fils n'apprenne pas de la part de ses tontons qui j'étais quand j'étais jeune, mais que moi je le mette à l'écrit, avec mes mots à moi et mes sentiments à moi. Et derrière, ça m'a permis donc en 3 ans de sortir 4 ouvrages. Et l'objectif, ce que disait Ousmane tout à l'heure, c'est que notre volonté, c'est de dire l'histoire de Sayyidina Moussa, ou l'histoire de Malcolm X, ou l'histoire de l'émir Abdelkader d'Algérie, de Frantz Fanon, avec sa nationalité algérienne en tant que noir, son parcours et la révolution qu'il a accompagnée, la révolution algérienne qu'il a accompagnée. Des livres de référence sur lesquels nous allons nous appuyer pour qu'on puisse avoir nos propres ressources. Deuxième étape, une boîte de production. Donc j'ai déjà travaillé sur des longs métrages, des séries, et je vous demanderai d'invoquer Dieu pour nous, autant sur la littérature que sur le cinéma, l'histoire d'une jeune marocaine noire, donc c'est un long métrage qui sortira l'année prochaine, jeune marocaine noire de peau, qui est avec ses semblables quand elle est avec la communauté africaine, mais qui va être intensément discriminée quand elle sera à l'extérieur, non pas parce qu'elle est maghrébine, mais parce qu'elle est physiquement noire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, et là où je te rejoins complètement quand tu dis je nuance mon propos, en réalité il y a un adage qui dit un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Nous on n'a aucun problème, et vraiment je suis sincère à 1000%, aucun problème avec les autres communautés. C'est pas du communautarisme, mais c'est que je suis toujours gêné aujourd'hui en 2018 de voir que quand une jeune fille maghrébine veut épouser un jeune petit frère à moi sénégalais et que ça fasse tout un pataquès partout. Ça me gêne que sur les réseaux sociaux, on puisse déverser la haine sur la communauté noire comme s'il fallait que nous on soit dans l'excellence dans tous les domaines pour ne plus être noir. Ça a été dit à plusieurs reprises, une fois que tu as les compétences, tu n'es plus noir. Mais si tu n'as pas les compétences, tu es quoi? Mais je suis un être humain. Je ne suis pas que noir. Noir, c'est une fatalité, c'est-à-dire je suis noir. Elle est femme, il est homme. Ça, ce sont des fatalités. Mais ensuite, juge-moi sur mes attitudes, sur est-ce que je marche sur terre ou est-ce que je marche dans la terre. Les différences, elles sont précisément là. Et le fait que je me sois déradicalisé, même si mon propos est toujours très haut, j'ai du mal avec même... Si mon professeur m'entend gueuler comme ça ici, je vais avoir des soucis, mais mon verbe est toujours très haut, mais je me suis déradicalisé. Tout à l'heure, je vous disais... C'est à partir de 20, 21, 22 ans qu'on s'est mis à se dire, dès qu'on entend le mot nègre, négresse, caralouche, caraloucha, on rentre dans tout le monde. Mais je suis mi-soninké, mi-wolof. Dès que je me suis marié, je me suis apaisé direct. Après, j'avais besoin de me marier, de trouver une femme à la maison. Ça m'a apaisé, ça. Tu arrives, ton tchad, il est prêt, il est bien chaud.
Et... Ouais, enfin, ça va élever un autre débat.
Il y a la douceur du mariage, je plaisante. Il y a la douceur du mariage.
Mais en fait, c'est lui qui le prépare, en fait.
Non, mais c'est pour choper les féministes. Mais
il y a en parlant de cela, vous avez terminé?
Non, j'ai fini. Non, c'est juste pour dire qu'il y a la question principalement de la connaissance. 2001, il faut se rappeler que c'est la loi Taubira. Il y a différentes problématiques que l'on voit en France. Nous, on sort de la Coupe du Monde 98 avec le Black Bomber qu'on nous a vendu comme étant, vous êtes tous des enfants de la République. Finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est fait berner. C'était juste une occasion de politiser un peu le truc. Et j'étais un élève de primaire à cette époque-là. Aujourd'hui, je me considère comme un élève de collège en classe de quatrième, avec une autre maturité, une autre lecture du combat panafricain, de ma position en tant que jeune de quartier, en tant que musulman, et principalement là où j'ai envie de clore mon propos, c'est que le racisme, c'est devenu un sujet aujourd'hui, c'est bien. Il y a des gens qui n'aiment pas. Quelqu'un avait dit hier, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vraiment le problème. Mon souci, c'est la discrimination. C'est de ne pas me laisser accéder à l'université, à un appartement, à un travail, ou de me huer dans un stade de foot, en tant que footballeur, de faire des cris de singe, parce que je suis noir, et de me discriminer sur l'accès à ce qui est élémentaire pour la survie d'un homme ou d'une femme.
Merci. Merci. On va terminer avec Awa, justement, sur ces questions de discrimination, et puis à la mosquée aussi.
Et un slam, hein.
Oui, non, mais déjà sur les discriminations femmes et mosquées. Je vous présente.
Mais pour les femmes dans la mosquée, forcément, il y a des moyens de mobilisation qui sont faits par les femmes musulmanes, je pense que vous m'entendez. Par les femmes musulmanes, notamment, qui luttent contre cette discrimination. Finalement, ce n'est pas des modèles alternatifs, les mosquées où les femmes sont dans les mêmes pièces que les hommes, puisque c'est censé être comme ça, en fait. C'est une pratique qui n'est pas forcément, qui n'a pas une origine liée à l'islam, ou plutôt de l'ordre culturel, si vous dire. Donc il y a des mobilisations, il y a eu le collectif des femmes pour la mosquée il y a quelques années à la mosquée de Paris qui a été créée par quelques femmes musulmanes pour dénoncer leur déplacement justement dans une cave au lieu de la place, de la salle qu'elles partageaient avec les hommes au départ. Il y a d'autres initiatives qui sont mises en place, notamment aux États-Unis, il y a une femme musulmane, qui a monté une mosquée inclusive, notamment réservée aux femmes. Donc ces questions-là, on se les pose bien sûr, on essaie de se mobiliser. C'est pas forcément évident parce qu'on est confronté à des obstacles. Il y a un fort rejet de la part de certaines personnes qui n'acceptent pas forcément cette idée. Nous, on essaie de trouver des moyens, on essaie de communiquer notamment sur ces questions-là. Et il y a d'autres initiatives donc, qui sont mises en place, notamment dans d'autres pays, mais aussi en France. Et pour répondre à la seconde question, il y a des mosquées en France qui ont ce modèle-là où les femmes ne sont pas forcément dans d'autres pièces, mais où elles partagent la même salle que les hommes. C'est juste que moi, je n'ai pas eu forcément la chance de les fréquenter là où j'habite.
À Bordeaux, par exemple, mais après, c'est toujours l'idée du placement que vous souleviez également. Merci. Peut-être vraiment maximum trois dernières questions, si trois se présentaient, mais il y avait effectivement le monsieur, madame, et puis voilà. Donc, monsieur.
Merci.
Je vous en prie.
Bien. Merci.
Je vous en prie brièvement. Je vous en prie.
Bien, voilà. C'est un témoignage.
Ah.
Que je porte à l'égard de ma patriote. Le problème des préjugés, de ségrégation, du racisme, qui frappe malheureusement tout le monde. Je disais malheureusement. Moi-même, j'ai été victime d'une ségrégation en 1975 à l'hôpital Jean Verdier où j'ai travaillé au service des urgences. Après avoir fait mon travail, c'est-à-dire fait le constat d'une patiente qui est arrivée aux urgences, alors la patiente a appelé sa fille. Il a dit, oh, Jacqueline, il va arriver. Il s'est pressé et disait, dis donc, il y a des médecins noirs maintenant. Oh. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le médecin, c'était un emploi. Il était réservé à certaines catégories, malheureusement, à l'époque, hein, d'après elle. Vous voyez? Que la médecine ou l'avocat ou tout. Ça, ça a été réservé qu'à une classe bourgeoise, hein, pas au noir. Mais cela ne m'a pas découragé. En 75, j'ai continué à travailler à l'assistance publique jusqu'à 40 ans et j'ai pris ma retraite. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, à ce moment-là, j'ai commencé après ma retraite à lutter contre ces racismes. Éduquer les gens. Je ne suis pas parti au bled, je suis là parce que ma place est là. Ma place est là. ne suis pas allé au Comores, là je suis comorien, mais ma place est ici. Je suis là, j'ai pris ma retraite, j'ai vu que les enfants, je vais dans les prisons, j'ai vu que les prisonniers, et voilà. Donc il ne faut pas se baisser, il faut se défendre. Hein?
Merci.
Il est évident, on reçoit toujours, toujours, ah oui, le musulman, ah oui, l'Africain, ah oui, le Comorien. On en recevra. C'est nous, d'accord? Mais accrochons à notre place. C'est le vivre ensemble. Voilà, merci.
Merci de votre question. Votre question.
Merci à tous. J'avais une question par rapport à la place de l'érudition dans le militantisme. Tout à l'heure, vous disiez, lors d'un moment, on leur cite Moussa, on leur cite des compagnons, etc. Ça ne suffit pas à faire changer une mentalité sur le paradigme faisant acquis de l'avoir, la question noire, la question des servitudes, qui est plus blanc que musulman, en fait, comme paradigme. Est-ce que, et puis même sur les questions intersectionnelles, etc., est-ce que finalement, réavoir une réflexion de fond, religieusement parlant, sur les mains racistes, etc., ça n'existe pas cette schizophrénie intellectuelle, vous parliez tout à l'heure du chef-féri de la traite d'esclaves, etc. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas remettre au cœur de ces luttes-là, que ce soit sur les questions de féminisme, du rapport des femmes à la mosquée, ou sur le rapport violent et raciste intra-communautaire, la question très scientifique, religieuse?
Merci. Il y avait une question, puis vous. Je vous en prie.
Très rapidement, une question sur l'identité comorienne, parce que moi j'ai été frappée dans mes enquêtes par le fait qu'un certain nombre de jeunes femmes d'origine comorienne que j'interviewais ne s'identifiaient pas comme noires, en fait. Vous avez dit, ça a été dit plusieurs fois, hein, que le rattachement à l'identité africaine n'est pas toujours évident. Mais le rattachant aussi à une identité de noir, hein, qui ne se dit pas forcément noir. Et en fait, ça dépend très clairement de leur peau, de leur couleur de peau, et de la manière dont elles ont été identifiées par les autres, hein, comme noir ou comme autre chose. Et en fait, elles jouent du coup beaucoup aussi là-dessus, mais voilà, ce n'est pas systématique, alors que là, on a un peu l'impression, quand on écoute, qu'il y a des identités aussi noires.
Merci. Et la dernière question, justement, qui sera très resserrée.
Okay. Ma question s'adresse à l'intéressant du Bakary Sarol et par rapport au racisme. En fait, j'ai comme l'impression, quand vous parlez tout à l'heure, c'est à sens unique. Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des mariages qui sont rejetés, quand il s'agit par exemple d'un jeune noir qui demande la main d'une fille arabe. Est-ce que vous avez à un moment pensé dans l'autre sens aussi, parce que dans nos milieux, c'est dans des milieux religieux, il arrive aussi que les demandes en mariage soient rejetées aussi pour des raisons culturelles ou parfois religieuses.
Une toute dernière question, oula, sinon ça ne va jamais s'arrêter.
Oui, non, je serai très 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 court. C'est pour l'assurer. J'ai beaucoup aimé la réaction de ton père qui disait que. De voir qu'il est noir, qui n'est pas musulman. Et c'est la même chose pour les Arabes. Qu'un Comorien voit un Arabe qui n'est pas musulman, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, le mot pour dire au Comorien qu'il est instruit, on dit « mosta arabe ». Il est arabisé. Donc quand on vient en France, qu'on voit des Arabes qui sont pas musulmans, les gens font deux demi-sons. Et je voulais poser une petite question, parce qu'à Paris, les écoles coraniques, ils ont fait ce qu'on appelle une fédération des écoles coraniques comoriennes pour cantoniser les Comoriens dans l'islam comorien et rien que ça. Est-ce qu'à Marseille vous avez un moufti, est-ce que vous avez pu faire ça ou pas?
Alors, pour le changement de paradigme, Bakary, vous allez commencer brièvement, si vous souhaitez répondre.
Je vais répondre aux deux questions. Je vais commencer là, après. J'ai répondu un peu tout à l'heure en disant que mon père, qui était un radicaliste noir, il est aujourd'hui avec deux gendres blancs convertis à l'islam. Mais ça va rejoindre la réponse que j'ai envie de donner là, c'est qu'il y a eu un travail de la part de gens de la communauté sonéquée, d'érudits, de jeunes, très respectés chez nos pères et chez nos mères aussi, parce que nos mères aussi sont très figées et très dures sur la question des mariages de caste. Entre un tel ou un tel, moi je suis partagé entre Soninké et Wolof par exemple, et c'est un vrai problème qu'une de mes sœurs veuille épouser un Wolof. Les Wolofs ne sont pas des Soninké pour eux, pour mes parents, et donc pour ma mère il va y avoir cette rigidité à ne pas accepter ou à prendre sur elle un mariage venant de quelqu'un qui n'est pas issu du village. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça s'est pas extériorisé de la même manière, par exemple, que le racisme blanc, qui a été théorisé à travers le code noir, par exemple, à travers la Bible, par exemple. Ça n'a pas été théorisé. Et vis-à-vis de nos frères maghrébins avec lesquels on partage les valeurs de l'islam, c'est qu'il y a un rejet, à un moment donné, des textes. On met de côté, on exclut, on fait comme si ça n'existait pas, et on parle de fraternité quand ça arrange, notre imam et cher l'a dit tout à l'heure, c'est que tant que je suis dans la profondeur des textes, et que je maîtrise la langue, et que je parle de Coran et de Sunna, ça va. Crispation au moment où on parle de mariage. Et pourtant, ça a été dit encore tout à l'heure, et pourtant, on va venir sur la position des femmes, par exemple, sur la base des textes, on s'appuie sur les textes et on dit, bon voilà, vous discriminez les femmes et c'est pas l'islam qui vous autorise à le faire. Cependant, demain, construction d'une mosquée, plan d'architecture, les femmes au sous-sol. Ou les femmes n'ont pas d'espace d'expression ou de rapport à la science directe. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a un problème des cœurs et c'est la question purement de la spiritualité sur laquelle il faut absolument revenir parce que les textes en eux-mêmes seront toujours soumis à 1000 interprétations où, c'est l'histoire du monde, on cache une partie pour pouvoir à vil prix profiter et bénéficier de cette courte vie.
Merci. Brièvement, Kadjoura, si vous voulez interagir.
J'ai rien à dire, si ce n'est très merci.
La Sourdine, brièvement.
De questions sur la question du religieux et de la déconstruction du racisme. C'est une question qui est difficile parce que dans les textes, en fait, et dans les exégèses, il y a beaucoup d'éléments hiérarchisants ou racialisants. Hein. Et malheureusement, ces exégèses-là sont utilisées. Donc, ce qu'il faut faire, et ce que, avec d'autres, hein, avec Haussmann aussi, ce qu'on en essaye de faire, c'est avoir reposé un autre cadre de lecture, prendre les textes, et repartir du Coran parce que il faut voir aussi que les musulmans ils lisent pas souvent le Coran et en fait c'est un islam héréditaire des fois. Je suis musulman parce que mon père il a fait le hajj. Ouais d'accord ok mais à part ça tu fais quoi? Non mon père il a fait le hajj. Donc on est des fois dans un islam aujourd'hui qui islam par commodité mais pas par érudition. Et je pense qu'il faut maintenant réinterroger les textes avec les sciences d'aujourd'hui. Hein, et avec les connaissances d'aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on est devant la potentialité du Coran, qui ouvre quand même des pistes, mais après le prophète, il était dans sa configuration sociale, dans sa configuration aussi tribale, et il a essayé de faire des choses, mais après, malheureusement, les tribus arabes sont venues et ont réutilisé le texte pour venir et se servir du texte et imposer un système de domination. Tous ces mécanismes-là, aujourd'hui, on les connaît. Hein? Et on peut aujourd'hui travailler le texte différemment et lui faire dire des choses qui, et pour les femmes, et pour les noirs, et pour la pluralité, pour le pluralisme, mais aussi pour l'acceptation de soi, nous donnent aujourd'hui des pistes de réflexion très intéressantes. Mais je pense qu'il faudra probablement lire le livre d'Haussmann qui nous ouvrira certaines pistes de réflexion.
Merci. Rali Aboudou.
Je m'en offrirai, j'espère.
Ça va. Ça, c'est marseillais, ça. Ça, c'est le très marseillais de la négociation.
Juste un mot pour répondre à la question qu'il fallait rester et se battre sur place et ne pas partir. Mais partir, ça permet aussi de faire la rupture, de s'enrichir, de revenir encore plus fort. Et je pense que ce qui est arrivé aussi bien à moi qu'à mes enfants. Parce qu'on fait l'aller-retour entre les Comores et la France. Et je suis obligée de le reconnaître. J'ai un parcours beaucoup plus intéressant aux Comores qu'en France, en tant qu'intellectuelle, en tant que femme, en tant que mère, etc. J'ai eu accès à plus de responsabilités, à plus d'actions sur le terrain aux Comores qu'ici. Mais ça, c'est ma génération. La génération de ma fille, elle, elle a travaillé aussi bien aux Comores, elle a eu des responsabilités. Mais ici, en France aussi, elle a ses responsabilités, elle a cette, cette volonté. Mais n'empêche que des fois, psychologiquement, le régime, ça amène des fois à se décourager. Et quand on se décourage, il vaut mieux aller prendre un peu d'air ailleurs. Et oui, si le Comore le permet, c'est bien, mais même dans un autre pays, c'est pas un problème. Moi, j'incite mes filles à partir pour le Canada, par exemple, que j'estime être un pays qui est beaucoup plus, qui accueille mieux que d'autres. Voilà.
Donc se déplacer pour se recentrer.
Eh oui, pour se recentrer.
Merci. Awa. On va terminer avec le must.
Pas du tout. Non, je voulais juste revenir sur la question de la réinterprétation des textes. Et l'invisibilisation, encore une fois, du coup, des femmes, notamment dans les positions de savoir, enfin, dans les positions de transmission de savoir religieux, notamment, et que c'est important qu'il y a plusieurs femmes dans le monde, notamment, je pense au réseau Moussawa, à des femmes qui travaillent justement sur la réinterprétation des textes religieux avec une perspective féministe, et que je pense qu'on ne pourra pas du tout avancer en fait tant que cette prise en compte ne sera pas effective et qu'il n'y a toujours pas assez de femmes en fait qui puissent effectuer ce travail aujourd'hui et qui est important pour pouvoir notamment progresser et avancer le débat.
Dans la ligne des travaux d'Amina Wadoud par exemple. Exactement. D'autres. Merci infiniment à toutes et à tous.